Vous êtes à l'écoute des Radio Capi, il est exactement 12h à Mimosa ici à Kinshasa et 13h à Minova au sud Kivu.
Radio Capi,
les journaux, Blaise Chindadi Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal parlé. Mais d'abord, les titres. La rentrée scolaire, c'est dans une semaine sur l'ensemble du territoire national. Cependant, elle est hypothétique pour des centaines d'élèves et écoliers de quelques écoles du territoire de Walikale au Nord Kivu. En cause, l'incendie d'au moins 4 écoles de 2 groupements de ce territoire en juin dernier par les rebelles du M23. En Ituri, plusieurs villages et centres de négoces du territoire de Djougou, désertés par leurs habitants à cause des violences armées, se repeuplent progressivement. Constat fait par Radio Okapi, qui a parcouru certaines de ces entités jeudi dernier. Au Kasaï Oriental, clôture ce vendredi à Mbujimayi de la conférence sur la vulgarisation des textes de la réforme de la police. Ces travaux financés par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a réuni pendant 3 jours les différentes personnalités. Pour en parler, nous recevons Alain Kateta, chef de bureau du PNUD dans le Grand Kasaï. Encore une fois, bonjour à tous. Rentrée scolaire 2025-2026, c'est dans une semaine, soit le 1er septembre prochain, sur l'ensemble du territoire national. Cependant, elle est incertaine pour des centaines d'élèves et écoliers de quelques écoles du territoire de Walikale au Nord Kivu. En cause, l'incendie d'au moins 4 écoles des 2 groupements de ces territoires en juin dernier par les rebelles du M23. Il s'agit des écoles primaires Bouimba, Kieri et de l'Epe Mumba. D'autres dizaines d'écoles ont également été impactées par la guerre. Un notable de la région alerte quant à l'avenir de nombreux élèves qui risquent de rater l'année scolaire dont la rentrée est prévue dans une semaine. Selon ces notables, aucune reconstruction n'a été envisagée jusqu'à ces jours. Une situation qui compromet sérieusement la rentrée scolaire de plusieurs élèves, ce qui inquiète aussi les parents. Muindo Muemeri John tire la sonnette d'alarme et lance ses plaidoyers.
Il est très vrai que les écoles dans les groupements Kisimba et Kobo ont connu des incendies pendant des affrontements à répétition dans les coins, mais aussi des écoles qui ont été terriblement touchées par ces aspects de guerre. Nous avons l'Institut 3 Agapé, l'Epe Mumba, l'Epe Ikobo, l'Epe Rusamambu, l'Epe Bukumbirwa, Restitiru Samambu, Epe Bulira, vraiment connaissent une difficulté terrible. Certaines écoles ont perdu des livres, les bureaux ont été saccagés, pillés par les inconnus. Donc, il nous sera très difficile de reprendre les cours à date du 1er septembre. C'est pourquoi nous lançons vraiment un appel très pathétique au niveau du gouvernement national. L'appel le plus pressant, nous le lançons aux organisations humanitaires pour qu'elles nous viennent vraiment au secours le plus tôt pour que l'ouverture scolaire à date du 1er septembre soit effective.
Nord Kivu toujours, les enseignants des territoires du Massissi et Rutshuru lancent un appel au gouvernement pour que leurs arriérés des salaires gérés par la Caritas soient payés avant la rentrée scolaire prévue dans une semaine. Selon les syndicats d'enseignants locaux, seule une partie des enseignants des Massissi a reçu ses salaires pour le mois de mars et mai. Pour la majorité d'entre eux, aucun paiement n'a été versé depuis plus de 6 mois. La situation est similaire pour les frais de fonctionnement et la prime de gratuité dont seul le mois d'avril a été payé depuis le début de l'année. Bandou Bauma Exaucé de la Force syndicale des enseignants du Congo, Fosinat, explique que dans ces conditions, les enseignants des Rutshuru et Massissi sont incapables de préparer la rentrée scolaire de leurs propres enfants. On l'écoute.
Pendant que le premier, c'est l'ouverture scolaire et sur toute l'étendue de la République pour l'année 2025-2026, mais l'enseignant des Massis et celui de Rutshuru ne sait pas où il va toucher pour acheter les fournitures scolaires pour son enfant. Quand vous allez nous dire et de nous laisser comme ça, sans nous payer nos salaires, où est-ce que nous allons toucher? Ou peut-être vous croyez que l'enseignant n'aime pas au monde. Vous devez quand même savoir que nous sommes aussi des parents, comme les autres parents. Mais les autres parents commencent maintenant à se préparer pour acheter les fournitures scolaires de leurs enfants. Quant à nous qui sommes enseignants, nous allons toucher où? Quand un enfant va manquer même un stylo, un parent quand il manque même un cahier, un parent quand il manque même l'uniforme de son enfant, pendant qu'il est enseignant, pendant qu'il est fonctionnaire de l'État, le gouvernement doit s'impliquer pour que la Caritas quand même paye les enseignants. Mais pourquoi toujours profiter dans la vocation et dans le dévouement des enseignants? Mais ce n'est pas juste ça.
Éducation encore, province du Tanganyika, poursuite ce samedi dans les territoires de Moba de la 8e édition de la campagne dénommée École Ezamombongote, qui veut dire l'école n'est pas un lieu de commerce et l'éducation n'est pas une marchandise. Une initiative de l'ONG Young Men Action for Education. Les membres de cette structure descendent dans des écoles pour enquêter sur certaines pratiques qui sont interdites par le ministère de l'Éducation nationale. Et les données qui résultent de cette enquête seront soumises aux autorités scolaires. On écoute Placide Muyumba, point focal de cette ONG, au micro de Paulin Munanga.
Selon les directives portant fixation de frais de scolarité 2025-2026, mais également la note circulaire portant disposition à prendre pour la rentrée de cette année scolaire, les inscriptions sont gratuites. Aucune école publique comme conventionnée ou non conventionnée n'a le droit de percevoir les frais d'inscription. Mais nous constatons dans les territoires de Momba que cette instruction n'est pas suffisamment d'application. Non seulement ça, la directive interdit les tests d'admission, les tests de réinscription et les tests de réintégration. La marchandisation des fournitures scolaires à l'école, les stylos, les cahiers, les uniformes. Il y a certaines écoles qui obligent que les élèves payent ces fournitures au sein de l'école même. Avec des enquêtes fournies, nous constatons que 85% d'écoles des Momba 1 et 2 ne respectent pas les instructions portant dispositions légales qui fixent les frais à percevoir. Certaines écoles perçoivent les frais des inscriptions, disant que ce sont des frais à payer les sentinelles, ce sont des frais à payer les crèches, or que dans toutes les écoles, ces frais sont prohibés par les autorités nationales.
Santé en plus bref. Dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, lancement officiel vendredi par le vice-gouverneur de la province de la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants de 0 à 59 mois. Selon la conseillère du gouverneur en matière de la santé et éducation, le nombre des enfants attendus seront connus après les dénombrements et les prémarquages des ménages, étant donné que plusieurs entités de la province ont été secouées par l'insécurité, causant ainsi les déplacements de plusieurs ménages. En Ituri, pendant ces temps, plusieurs villages et centres de négoces du territoire de Djougou, désertés par leurs habitants à cause des violences armées, se surpeuplent progressivement. Constat fait par Radio Kapi, qui a parcouru certaines de ces entités jeudi dernier. Selon l'administrateur des territoires, c'est le résultat des opérations militaires menées par les forces régulières contre les éléments du groupe armé Convention pour la Révolution Populaire, CRP. Des opérations qui permettent, bien que timidement, la reprise des activités économiques, confirme des acteurs de la société civile. Jean-Claude Lokidile.
Alinji, Lopa, Iga Barrière, Gina, jadis vidés de leurs habitants, la vie reprend petit à petit. Boutiques, pharmacies et restaurants rouvrent leurs portes. À certains carrefours, des conducteurs de taxis moto sont visibles. Le trafic a lui aussi repris normalement sur l'axe Iga Barrière Mahagi. Témoignage de Gédéon Dino, responsable de la société civile de la zone.
À Lopa, la vie reprend timidement. Il y a certaines boutiques qui étaient assez sont déjà ouvertes. Et la barrière, certaines boutiques, magasins sont déjà ouvertes et les bâtiments aussi sont là, mais sauf les orpailles n'ont pas encore accès au site minier.
L'administrateur du territoire de Djougou, le colonel Ruifin Mapela, attribue ce retour progressif à la calmie imposée par les FARDC grâce à leurs opérations militaires contre les éléments de la CRP.
La zone qui était perturbée, c'est-à-dire la zone de Iga Barrière, Lopa et Gina, est récupérée par les forces de la République. Les populations commencent à vaguer librement dans cette zone-là. C'est ce qui démontre clairement que les opérations ont réussi. aussi.
Pour l'instant, des militaires des FADC sont déployés dans les grandes agglomérations, tandis que d'autres effectuent des patrouilles pédestres afin de sécuriser les usagers de la route nationale numéro 27. De retour de Djougou, Jean-Claude Loki, d'Ile Radio Kapi.
Revenons encore une fois au Nord Kivu, où le gouverneur militaire de cette province est arrivé vendredi à Mangourjipa, chef-lieu du secteur des Bapéré, pour s'imprégner de la situation sécuritaire, socio-économique et humanitaire dans cette entité du territoire de Lubero. C'est dans cette zone où on enregistre une forte concentration des populations déplacées à la suite des atrocités des rebelles des ADF dans la région. Pour le gouverneur, il y a nécessité de leur porter une assistance humanitaire urgente au regard de leurs conditions de vie précaires. On écoute le général Évariste Kakule-Somo, gouverneur militaire du Nord Kivu, dans ses propos recueillis par Marc Marofimbo.
Nous sommes arrivés ici à Mangourjipa suite aux atrocités qui se passent dans le secteur des Bapéré. Je suis venu rencontrer les services de sécurité, notamment l'armée qui opère ici, savoir quels sont les problèmes qui conduisent à la résurgence de ces massacres, parler avec la population. Donc j'ai recueilli tous les éléments qu'il faut. Et nous allons en faire part à l'autorité pour que les mesures actuelles soient renforcées, réorganisées et que le paquet soit mis pour que finalement on arrête ce cycle de violence et de morts contre la population civile. Et donc, il y a une foule incroyable déplacée, totalement démunie, qui sollicite que nous leur venions en aide. Donc, au niveau provincial, on s'organise quant à cela. Je suis en contact avec nos partenaires locaux qui, malheureusement, eux aussi hésitent de venir pour plusieurs raisons. La première, c'est la sécurité sur les axes pour arriver ici, mais aussi l'état de la route. Cet appel aussi que je porte carrément envers l'autorité centrale à Kinshasa pour que, oui, très très vite, nous puissions apporter l'aide humanitaire nécessaire à cette population.
Province du Lualaba, libération mercredi dernier à Kolwezi de 407 agents de la société de gardiennage Congo Astral Company après une dizaine de jours de détention. Dans un communiqué de presse ce vendredi, l'ONG Justicia Icebell dénonce la séquestration dont ces personnes ont été victimes et les mauvaises conditions de détention. Toutefois, Justicia Icebell encourage les sociétés de gardiennage de continuer à se conformer aux lois de la RDC en la matière. Maître Timothée Mbouya, président de cette ONG, est au micro de Paulin Munanga.
407 agents de Congo Astral Company, une société de gardiennage, ont été libérés par les ministères de l'Intérieur de la province du Lualaba, alors qu'ils étaient détenus, séquestrés, pour, semble-t-il, avoir porté détenus s'apparentant aux tenues de l'armée ou de la police, ainsi que possédant du matériel soi-disant militaire, alors que, selon les investigations de Justicia Icebell, cette compagnie avait bel et bien reçu des autorisations des autorités compétentes pour détenir ces matériels. Ces 407 personnes ont été libérées sans qu'ils aient été mis au courant du motif pour lequel ils ont été arrêtés, séquestrés pendant plus d'une semaine de détentions arbitraires. Justicia Icebell encourage donc toutes les entreprises de gardiennage à pouvoir se conformer à la législation, faire de leur mieux pour qu'elles se conforment aux lois de la République démocratique du Congo en la matière pour éviter qu'elles ne soient l'objet de tracasseries de toutes sortes. Justicia Icebell demande également que des sanctions soient prises à l'endroit de toutes ces autorités-là qui ont séquestré et détenu arbitrairement ces personnes.
Le ministre des Mines, Louis Wantoum Kabamba, a lancé un appel aux investisseurs à l'occasion de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9 qui s'est tenue dans la ville de Yokohama au Japon. Cette initiative fait suite aux échanges fructueux qu'il a eus avec de nombreux opérateurs miniers venus des quatre coins du monde. Le patron du secteur minier congolais a centré ses interventions sur les principes de transparence et de bonne gouvernance, pilier de l'action du gouvernement dirigé par Judith Suminwa Touluka. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Au cours de ce forum mondial, les ministres Louis Wantoum Kabamba a tour à tour échangé avec les opérateurs miniers et autres experts en matière de mines. Avec Asia Mineral Limited et Kivuvu Congo Mine, les échanges ont porté sur une mise à jour des travaux géophysiques et administratifs liés à leur partenariat dans le Congo central. Louis Wantoum a également accordé audience à l'entreprise japonaise Solafune, spécialisée en intelligence artificielle et télédétection en partenariat avec les services géologique national du Congo. Invité par l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et l'Union Africaine, le ministre des Mines est également intervenu comme panéliste sur les thèmes tirer parti de l'innovation pour la transformation industrielle de l'Afrique. Dans son intervention, il a rappelé que les minerais stratégiques de la RDC placent le pays au cœur de la transition énergétique mondiale. Il a par ailleurs insisté sur la transformation locale en soulignant sa capacité à créer des emplois, à générer de la valeur ajoutée et bâtir une industrie minière intégrée, durable et transparente.
Kasaï Oriental, avant d'aller plus loin, bonne nouvelle pour les habitants de Mbujimayi. L'avenue Tchalamwana dans la commune de la Mouya est devenue praticable aux véhicules ainsi qu'aux piétons. Ces tronçons qui partent de l'avenue Odia David jusque sur l'avenue de l'université, soit une longueur de 1270 mètres linéaires et de 14 mètres de largeur, a été asphalté pendant près de 3 semaines par l'entreprise Safrimex. Une modernisation saluée par la population. Des explications avec Esther Ndalafina.
C'est un boulevard. Tchalamwana possède désormais 2 voies, dont 2 bandes chacune. La modernisation de cette grande artère rentre dans le cadre du projet Tchilegelo. Les ouvriers de Safrimex posent actuellement des bordures de part et d'autre de cette route. Mathieu Tchamala, croisé sur Tchalamwana, exprime sa joie.
Comme nous voyons comme ça, nous sommes contents. On a asphalté la route 4 bandes. Très content que jamais, puisque cette route était impraticable. Nous félicitons chef de l'État.
Un autre habitant, Willy Madiba, apprécie les travaux effectués sur cette route.
Nous estimons notre joie. Par rapport à cette route, il y a un grand changement. D'abord, cette route était déjà abandonnée. La circulation est devenue très libre.
Après l'asphaltage, Monique Bamani demande que Tchalamwana soit également éclairée par les lampadaires.
Je suis contente. Il y avait toujours des promesses sur la réhabilitation de cette route depuis plusieurs années. L'avenue est actuellement large. Les véhicules font bien les dépassements. Il ne reste que l'éclairage public sur cette artère.
Signalons que d'autres artères, dont notamment Biémé dans la commune de Bipemba et des écoles dans la commune de Lakanchi, ont été récemment asphaltées. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Tunisie, la mobilisation de l'Union Générale Tunisienne du Travail du 21 août suscite différentes réactions au sein des politologues. Si certains estiment que la démonstration des forces a été réussie, d'autres soulignent le peu de monde lors de la manifestation. La centrale syndicale qui comptabilise plus de 700 000 adhérents a réussi entre 2 000 et 3 000 personnes à Tunis. Une manifestation de grande ampleur, mais qui reste moins importante que d'autres démonstrations des forces de la principale centrale syndicale du pays. En cause, les crises en interne qui ont affaibli les syndicats ces dernières années et les pressions politiques et judiciaires.
L'invité.
Au Kasaï Oriental, clôture ce vendredi à Mbujimayi de la conférence sur la vulgarisation des textes de la réforme de la police. Ces travaux financés par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a réuni pendant 3 jours les commandants des unités de la police, les autorités politiques et administratives, ainsi que les acteurs de la société civile. Alain Kateta, chef de bureau du PNUD, dans le Grand Kasaï, s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Alain Kateta.
Bonjour, madame.
Vous vous retrouvez aujourd'hui en Mbujimayi. Quel est le but de votre mission ici?
Madame, je suis ici au nom du représentant résident et au nom du bureau PNUD pour assurer le suivi des activités réalisées par nos partenaires du ministère de l'Intérieur et la commission spéciale sur la réforme de la police avec l'appui du programme d'appui à la réforme de la police, un programme conjoint qui est coordonné par les PNUD en RDC. C'est dans ce cadre que je me retrouve ici dans la province du Kasaï Oriental et au-delà de ça aussi rencontrer les autorités de la justice et les autorités provinciales pour certains échanges et même les autorités de la santé puisque nous avons aussi un projet VIH et tuberculose qui est exécuté ici dans la province du Kasaï Oriental par les PNUD.
Quel est le rôle que joue les PNUD dans la réforme de la police?
Les PNUD jouent plusieurs rôles. À la fois il y a l'assistance technique Eric, le PNUD apporte son expertise et son expérience. Ça fait plusieurs années que le PNUD appuie aussi la réforme de la police et sur le plan technique, également sur le plan logistique, comme cette conférence Kassa Oriental. Le PNUD a apporté à la fois un appui technique et un appui logistique pour que cette conférence soit une réalité telle que vous l'avez vécue dans ce beau cadre de l'hôtel La Merveille de Mbujimayi.
Qu'est-ce que le PNUD attend des participants? Il y a les officiers de la police, il y a les acteurs de la société civile et même les autorités politiques et administratives.
Le PNUD attend à la fois un changement de mentalité de la part de la population locale vis-à-vis de la police, puisque la police et la population doivent vivre à l'instar du poisson dans l'eau. Et sans la police, la population ne sera pas sécurisée. Sans la population, la police ne saura pas atteindre ses performances et réaliser de bons objectifs dans ses missions qui lui sont attribuées de par la Constitution. Et au-delà de ça, le PNUD attend l'appropriation des autorités politico-administratives et l'implication de toutes les parties prenantes que vous avez vues dans la salle. Le PNUD souhaite que toutes ces parties prenantes s'approprient tous les textes portant sur la réforme de la police pour que nous puissions atteindre la gare des destinations, c'est-à-dire une police professionnelle, une police respectueuse des droits humains, qui respecte les droits de la femme, les droits de la jeunesse, bref, une police professionnelle. Et pour atteindre ça, ce processus qui est mené et lancé depuis de longues années, le PNUD appuie les efforts du gouvernement en République démocratique du Congo, et même dans l'espace Grand Kassai, le PNUD appuie les efforts des gouvernements provinciaux dans la grande région du Grand Kassai, comme il le fait au niveau central.
Comment se fera les suivis?
Nous avons une commission qui s'occupe de la réforme de la police. Il y a une commission de suivi pour la réforme de la police et cette commission est en étroite collaboration avec le PNUD. Et le PNUD a des experts qui travaillent avec les experts de la CCRP. À tout moment, il y a des échanges, des partages d'expériences et il y a des évaluations qui se font à la fois en interne. Et nous avons dans chaque province, même ici au Kassai Oriental en Mbujimayi, il y a le commissaire provincial qui est le point focal de la réforme de la police. Et donc, même au niveau provincial, nous savons mener les suivis. Pour preuve, vous me retrouvez en Mbujimayi. Mais je suis venu de Kananga par route. Le PNUD est là.
Après cet atelier, quelle sera la prochaine étape?
Il va falloir continuer à mobiliser toutes les ressources à la fois humaines et financières pour continuer davantage à appuyer la réforme de la police. Et il va falloir assurer les suivis dans tous les territoires, puisque les participants sont venus de tous les territoires. Est-ce qu'ils ont intériorisé tout ce qui leur a été donné comme matière et mettre en œuvre toutes les recommandations qui ont été prises au cours de cette grande activité?
Quelles sont les quelques recommandations qui sont issues de cet atelier?
Au cours de cet atelier, il a été recommandé vraiment aux autorités politico-administratives, par exemple, de savoir qu'elles doivent assumer leurs responsabilités en termes de sécurité des biens et des personnes, mais en collaboration avec un instrument qui est mis à leur disposition par la Constitution et les lois du pays, notamment la police. Il a été recommandé à tous les commissaires territoriaux, les commandants des SIAT et des sous-SIAT, d'assumer leurs responsabilités et de savoir collaborer à la fois avec la population, à la fois avec l'autorité territoriale.
Monsieur Alain Kateta, merci.
Merci Madame Esther Ndalafina.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à notre grande édition du journal de la mi-journée, coordonnée et supervisée par Jean Gando Kabongo et mise en onde par Billy Landry Betou. Ces informations sont disponibles sur toutes nos plateformes digitales et sur notre site internet www.radiocapi.net.